I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue chez les Windsor, raconté par l'un d'entre eux, le prince Harry. Les mémoires du duc de Sussex, intitulées Spare, le suppléant français, sont sorties le 10 janvier. Succès, oui oui, 400 000 copies vendues le jour même. Mathilde Cousin, journaliste à 20 minutes, a lu les 541 pages du livre du fils cadet de Charles et petit frère de William. Alors, quel est le propos de fond du fils rebelle de la monarchie britannique, à part des potins un peu malaisants? Comment s'inscrit cet ouvrage dans la longue stratégie de communication du prince et de son épouse, Meghan Markle, en conflit avec la monarchie britannique? Et cette com, jusqu'où? On en parle avec notre journaliste. Salut Mathilde. Tout d'abord, pourquoi les mémoires du prince Harry, fils cadet de Charles, sont intitulées « Le suppléant » en français ?
Le suppléant, en fait, c'est une référence à une tradition royale, une tradition ancrée depuis plusieurs générations, c'est-à-dire que l'héritier du trône a plusieurs enfants, donc le premier qui sera son héritier, et un deuxième qui est surnommé de manière probablement cruelle le suppléant, puisqu'il est là, en fait, sa fonction, c'est de remplacer cet héritier si cet héritier venait à abdiquer ou à disparaître.
Dans la presse a fuité déjà les meilleures pages ou les anecdotes. Celles qui retiennent l'attention, c'est que le prince Harry a perdu sa virginité derrière un bar à 17 ans, qu'il trouve très méchant et son papa et son grand frère. Mais c'est pas forcément que ça son propos.
Il y a deux grandes lignes directrices dans son livre. La première, en fait, c'est sa relation avec les médias, les tabloïds britanniques qu'il franchement déteste. Il y a des charges très très violente. Il qualifie par exemple Rupert Murdoch, qui est donc grand mania des médias australien, qui a les titres des titres emblématiques en Grande-Bretagne comme le Sun. Donc il qualifie de mal incarné. Et ça, en fait, cette position de Harry, elle n'est pas nouvelle et on la comprend bien. C'est le fils de Diana. Il a vu sa mère pourchassée pendant toute son enfance par des paparazzi. Lui-même raconte dans son livre avoir été pourchassé toute sa vie d'adulte. En fait, après la mort de Diana, il y a une sorte de pacte implicite entre la monarchie et les journaux britanniques en disant « on ne touche pas aux enfants ». Mais très rapidement, ce qui explique, c'est que ce pacte a explosé. Ça, c'est un des premiers fils directeurs. Et le second fil directeur, c'est la perte de sa mère à l'âge de 12 ans. Cette peine, en fait, qu'il n'arrive pas à exprimer au cours de toutes ces années. Toute sa quête, en fait, pour se rendre compte, puisqu'il explique en fait que pendant des années, il va refuser de croire que Diana est vraiment décédée. Il va se raconter des histoires, par exemple, se dire que tout cela n'est qu'un stratagème pour échapper à la presse. Et finalement, c'est lors d'un voyage à Paris en 2007 où il demande à traverser le tunnel sous le pont de l'Alma qu'il va se rendre compte que là, elle est vraiment disparue.
Pont de l'Alma où est décédée la princesse Diana dans un accident de voiture.
Ce fil directeur, ça lui permet de remonter comme ça le fil de sa vie. En fait, il parle très très peu de son enfance. Vraiment, les mémoires commencent au moment de la mort de Diana. Et ensuite, il raconte son adolescence, ses années de pensionnat, ensuite ses années dans l'armée. Et tout ça, en fait, sont racontés plus par le biais de réponses à ce qu'ont publié les médias à l'époque que par un parcours strictement chronologique de ce qu'il a vécu, des événements importants de sa vie. Il revient sur des incidents à Las Vegas où il avait été photographié nu, jouant avec des amis, il revient là-dessus. Il y avait une vidéo qui avait fuité de lui au milieu des années 2000 où il utilisait un terme raciste envers un soldat pakistanais. Donc il revient là aussi sur l'utilisation qu'il avait fait à l'époque de ce terme. Voilà, en fait, c'est beaucoup de réponses à des accusations qui étaient sorties dans la presse.
Mais aussi pas mal d'anecdotes ou d'anecdotes qui sont un peu, bon, alors évidemment croustipotin, hein, parce qu'on a un côté voyeur, ne le cachons pas, mais bah, est-ce que c'est pas un peu trop aussi?
Oui, il y a une scène par exemple où il raconte qu'il est aux États-Unis, dans la villa de l'actrice Courtney Cox, donc qui joue Monica dans la série Friends, et quelques pages auparavant, il nous raconte qu'il a traversé une période assez sombre où il ne sortait plus, où il regardait justement la série Friends en boucle et qu'il s'identifiait à Chandler Bing. En fait, cette scène dans la villa, il dit qu'il prend des champignons hallucinogènes avec un ami, qu'il se met à halluciner, à avoir des formes dans les toilettes, etc.
Mais c'est pour
on
l'humaniser.
On se demande en fait quel est l'objet. Il raconte plusieurs anecdotes comme ça, par exemple, qu'il aime bien faire ses courses au supermarché, mais que étant le prince Harry en Grande-Bretagne, c'est difficile de sortir sans causer un attroupement autour de lui. Il a cette distance avec sa propre histoire et se rend bien compte que ce n'est pas une enfance, la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Mais en même temps, voilà, il essaie de dire que moi aussi, peut-être, je rencontre des problèmes de la vie de tous les jours.
Dans cette communication bien rodée du prince Harry et de son épouse Meghan, qui sont en conflit ouvert avec la famille royale britannique, dans cette stratégie de communication, il y a déjà eu une interview choc avec la papesse américaine Oprah Winfrey. Il y a eu des interviews, il y a eu aussi le documentaire sur Netflix. Aujourd'hui, il y a un livre. Cette stratégie de communication, elle mène jusqu'à où?
Alors, le livre se distingue parce que il revient en détail sur des événements qu'il n'avait jamais dévoilés jusqu'ici. C'est ce qui fait la singularité du livre. Ensuite, Harry, il se défend en fait d'être un peu comme ça, de balancer un peu un pavé dans la mare, isolé. C'est vers la fin de l'ouvrage où il rappelle, de manière pas forcément si innocente, que son père, en 1994, avait publié des mémoires signées par l'historien et le présentateur Jonathan Dimbleby, qui est très connu en Grande-Bretagne. Ce que dit Harry, c'est que ce n'est pas des mémoires qui ont été écrites uniquement par cet historien, mais qui ont été écrites avec le prince Charles. Et en 1994, on sait que le prince Charles s'est séparé depuis quelques années de Diana, que son image est très écornée en Grande-Bretagne, qu'il a souffert de la séparation et qu'il essaye de redorer son image. Ce que ne dit pas Harry, mais c'est que sa mère a fait la même chose quelques années auparavant, en 1992, justement l'année où elle se sépare officiellement de Charles. Elle publie, elle aussi, ses mémoires en collaboration avec un journaliste. Donc en fait, là, il est un peu dans une lignée familiale, il s'inscrit dans une histoire. Et en fait, ce qui fait Harry, il l'explique un petit peu à la fin, mais toute cette démarche, et c'est transparent dans tout le livre, c'est qu'en fait, il fait exploser des conventions journalistiques, en fait. Ce que pratique beaucoup le palais, les conseillers à la fois de Charles, les conseillers de sa grand-mère, les conseillers de Kate et William, c'est le off, en fait. C'est-à-dire qu'officiellement, on ne va pas répondre, on n'apportera pas de réponse, mais on laisse passer des histoires, donc en off, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que la source, c'est un conseiller de Charles ou un conseiller de la reine Elisabeth.
Ce qui vient un peu à l'encontre du « never explain, never complain ».
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il nomme une proche de la reine explicitement en disant que cette femme plantait des histoires parfois fausses dans la presse. Enfin, les accusations sont parfois très précises. Il se moque de plusieurs conseillers comme ça. Il leur donne des surnoms un peu ridicules, la guêpe, l'abeille, etc. en disant que, pareil, ils orchestrent une communication qui n'est pas toujours très fine. Et lui, ce qu'il fait, en fait, c'est juste dire « je vais vous raconter mon histoire » et en « on », en fait. C'est-à-dire que je ne me cacherai pas derrière des conseillers, je ne me cacherai pas derrière toutes ces stratégies et je vais parler un petit peu à tout le monde parce que ce qu'il n'aime pas aussi, il le dit à plusieurs reprises, c'est que pour couvrir la famille royale en Grande-Bretagne, les journaux ont des journalistes spécialisés, il y a un pool de reporters royaux. Et la convention, c'est que ces reporters royaux ont un accès un peu plus privilégié à la famille royale dans certains moments. Ce qui leur permet voilà, de faire des reportages, de faire des interviews, des choses comme ça, ou d'avoir accès à la famille royale lors de déplacements. Et voilà. Et lui, en fait, dit qu'il y a une grande hypocrisie derrière là-dessus, que ça permet une trop grande proximité entre les médias et certains membres de la famille royale pour diffuser des histoires qui ne sont pas forcément flatteuses pour toute la famille, y compris pour lui. Et donc, il refuse ce système et lui va raconter son histoire à visage découvert.
Ça, on a quand même eu déjà des plus que des prémices déjà dans l'interview avec Oprah Winfrey, aussi dans le documentaire de Netflix. Bon, c'est quoi la suite en fait pour Prince Harry?
Prochain événement dans la vie de la famille royale britannique, prochain événement d'importance, ça va être le couronnement de Charles. Et à l'heure actuelle, aucun plan n'a été diffusé.
Ce sera en mai, le 6 mai.
Là, il y a eu des rumeurs dans la presse britannique. On disait que Harry ne devait pas participer. Finalement, si. Là, je crois qu'on aura la réponse définitive que le 6 mai, s'il est présent.
6 mai 2023. Est-ce que pour Harry et son épouse Meghan, la complainte est déjà un business et va continuer d'être un business ?
Probablement, puisque en fait, ce livre, il a signé bien sûr un contrat avec la maison d'édition pour la série Netflix également. Donc, bien sûr qu'il y a des enjeux financiers derrière. Harry, il l'explique. Il dit qu'il faut qu'il finance sa sécurité, celle de sa famille et son train de vie. En avant-propos du livre, quand même, il précise qu'une partie des bénéfices des ventes vont aller à des associations caritatives.
Mais on ne sait pas le pourcentage.
Ce détail n'a pas été révélé. Donc oui, c'est un business, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut vendre d'autre ? Il a lancé sa fondation avec sa femme. Meghan Markle anime un podcast aussi sur Spotify où elle interviewe des personnalités. Ensuite, que peut-il dévoiler de plus sur son histoire ? Lui seul le sait. Quels éléments n'a-t-il pas encore révélé ? Il en a déjà dit beaucoup. Un des risques, s'il reste un petit peu sur ce registre, c'est de lasser et d'apparaître un peu en décalage avec la Grande-Bretagne qu'il a quittée il y a maintenant 2 ans.
2 ans, et jusqu'à maintenant, ces révélations ont été fructueuses en termes de revenus économiques. À la lecture de ces 541 pages, une conclusion selon toi ?
C'est un ouvrage surprenant à certains moments, par certaines anecdotes, il fait preuve de beaucoup de franchise. C'est un ouvrage, on le sentait, hein, il l'avait déjà exprimé, mais qui montre que finalement, se remet pas de la mort de sa mère. En fait, on sent une énorme frustration de ne pas avoir pu répondre à la presse.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.